de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir Serge Rita, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, nos commentaires et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, Apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, Serge Rita, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous. Voice of Indonesia, d'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir, chers auditeurs. Vous écoutez maintenant les nouvelles d'aujourd'hui. On va parler de le président turc Recep Tayyip Erdogan a confirmé qu'il se rendrait à Jakarta au début de 2020. En novembre prochain, le gouvernement provincial de Java occidentale enverra 5 oulémas en Angleterre. L'appréciation du ministère indonésien du tourisme, Kem de la fraternité renforce l'image du tourisme à Bali. Chers auditeurs, voici les nouvelles en complet avec moi, Audrey. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a confirmé qu'il se rendrait à Jakarta au début de 2020. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a confirmé qu'il se rendrait à Jakarta au début de 2020. Il a transmis ce plan à l'ambassadeur d'Indonésie en Turquie, Lalu Muhammad Iqbal, dans les entretiens bilatéraux, après que l'ambassadeur Iqbal ait remis une lettre de créance du président indonésien Joko Widodo au palais présidentiel de Kuliesi à Ankara le vendredi 23 novembre. Cela a été dit par le président Erdogan dans une déclaration de l'ambassade d'Indonésie à Ankara samedi. Le président Erdogan a demandé à l'ambassadeur Iqbal de communiquer en temps ses mots avec le porte-parole présidentiel et un certain nombre de ses conseillers afin d'assurer la date et préparer le programme de la visite. Le président Jokowi a visité la Turquie en 2017. Le président Jokowi a été bien accueilli par les forces présidentielles turques et aussi par les troupes portant l'uniforme de l'armée ottomane. En novembre prochain, le gouvernement provincial de Java occidentale enverra 5 oulémas en Angleterre. Le gouvernement provincial de Java occidentale enverra au Royaume-Uni, 5 jeunes oulémas qui ont obtenu leur diplôme du programme English for Ulama en novembre 2019. Cela a été déclaré par le gouverneur de Java occidentale, Ridwan Kamil, dimanche à Bandung. En conséquence, 5 oulémas représentant Java occidentale se sont rendus en Angleterre pour prêcher dans diverses communautés ou institutions afin de transmettre un islam pacifique. Le programme anglais pour les oulémas est basé sur l'idée de la nécessité pour les oulémas indonésiens de participer aux campagnes de l'islam pacifique dans diverses régions du monde. À travers le programme English for Ulama, le gouverneur de Java occidental Ridwan Kamil espère que les connaissances linguistiques des oulémas, notamment de Java occidental, augmenteront afin d'éviter malentendus. L'appréciation du ministère indonésien du tourisme, Kem de la Fraternité, renforce l'image du tourisme à Bali. Le ministère du tourisme apprécie la mise en œuvre du Kem de la Fraternité 4, organisé par l'Organisation de Jeunesse Junior Chamber International, JCI, dans le but d'améliorer l'image du tourisme à Bali et en Indonésie. Cela a été dit par le ministre du Tourisme, expert en marketing, en coopération touristique, Igde Pitana, lors de l'ouverture de l'activité à Amplapura Karang Asem, Bali, samedi. La Jeune Chambre internationale, JCI, est une organisation de jeunesse dans 127 pays. L'organisation, qui existe depuis plus de 100 ans, compte un membre très vaste qui pourrait contribuer à la reprise du tourisme à Bali, en particulier à Karang Asem, pour faire face aux défis. Le camp des frères Brotherhood 2019 porte sur le thème « Synergie de la diversité » organisé dans le village de Tangkup Karang Asem Bali pendant 3 jours, du 23 au 25 août 2019. Des membres des diverses régions nationales et étrangères, y compris des participants du Japon et de la Corée, ont assisté au camp. Le ministère de l'Agriculture garantit la santé et la sécurité des exportations de dérivés de l'huile de palme. Le ministère de l'Agriculture, par l'intermédiaire de l'Agence de quarantaine agricole, Barantan, en tant que facilitateur du commerce des produits agricoles, garantit la santé et la sécurité des produits agricoles qui sont transmis aux pays partenaires commerciaux. Le président de Barantan, Ali Jamil, a déclaré que lorsqu'il examinait l'industrie de la palourde et libéré 22 800 tonnes de produits dérivés de la palme en provenance de Sumatra occidentale. Dans un communiqué de presse reçu dimanche à Jakarta, l'inspection de quarantaine a été effectuée conformément aux normes internationales et aux exigences de chaque pays de destination. Le chef de la quarantaine agricole de Padang, Eka Darnida Yanto, a indiqué qu'outre les produits dérivés de l'huile de palme, d'autres produits agricoles du Sumatra occidental ont également été exportés. 604,8 tonnes de plaques de caoutchouc, 18 tonnes de café en grains, 95 tonnes de dérivés de cannelle et de noix de coco constituées de à partir de 83,8 tonnes de lait de coco, 25 tonnes de noix de coco râpées et 71,2 tonnes d'eau de coco. Les destinations d'exportation comprennent les Pays-Bas, l'Espagne, la Norvège, la Chine, le Bangladesh et l'Allemagne. Drapeau rouge et blanc à la frontière des eaux indonésiennes et malaisiennes. Bien que la célébration du 94e anniversaire de l'indépendance de l'Indonésie soit terminée, ça n'a pas dissuadé l'enthousiasme des habitants de la région frontalière entre l'Indonésie et la Malaisie dans la région de Nunukan, dans le nord de Kalimantan, pour défiler sous le drapeau rouge et blanc. Comme mené par l'Association des employeurs de navires des transports pluviaux en collaboration avec le groupe de travail PAMIFAS, Yonif Rider 600, MDG KSOP et le ministère des Affaires maritimes et de la pêche le dimanche 25 août. La marche du drapeau rouge et blanc utilise des navires en bois autour du bassin versant Indonésie-Malaisie à partir du port de Tunon Taka, village de Nunukan oriental, jusqu'à Seibolong, village de Nunukan septentrional. le commandant Ronald Wahyudi, commandant de la force opérationnelle du bataillon infanterie des frontières du Raider 600 des ODM, a déclaré que cette activité était une forme de démonstration de l'amour de l'État indonésien par la communauté locale. Quelques 30 navires et des centaines de personnes ont participé à l'événement en empruntant une route reliant le port de Tunontaka à la frontière maritime et fluviale jusqu'au port traditionnel de Seibolon. Région d'Aceh Ouest offre des investissements à la délégation malaisienne. Le région d'Aceh Ouest, Haji Ramli MS, a offert un investissement et divers partenariats à l'Association internationale des anciens élèves de Rabita de Malaisie lors d'une visite au bureau du régent local à Malabo samedi soir. Selon lui, de nombreux domaines d'investissement peuvent actuellement être exploités dans la région, entre autres les secteurs de l'agriculture, des plantations, de l'éducation, de la mer ou de la pêche et disposent de ressources naturelles abondantes. En tant que région qui entretient déjà des relations étroites avec la Malaisie, il espère que cette visite sera en mesure d'avoir un impact et des résultats optimaux afin que le développement du potentiel régional à l'avenir soit encore meilleur. Dans le même temps, président de l'Association internationale des anciens élèves de Rabita Al-Azhar Malaisie, le docteur Datuk Muhammad Fakhruddin Abdul Mukti s'est dit très heureux d'être en contact avec le régent d'Aceh occidental. Il a ajouté qu'il rechercherait également une coopération susceptible d'apporter des avantages aux deux pays, de sorte que des bonnes relations entre l'Indonésie et la Malaisie devraient être meilleures et plus avancées. Chers auditeurs, c'était les nouvelles.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Déplacement de la capitale du pays n'a pas besoin de se précipiter ». Le 16 août 2019, le président Joko Widodo a officiellement demandé la permission aux membres du Parlement de déplacer le centre de gouvernement à Kalimantan. Environ une semaine plus tard, Sofian Jalil, ministre des Affaires agraires et de l'aménagement du territoire, a déclaré que l'emplacement de la nouvelle capitale du pays s'était certainement déplacé vers la province de Kalimantan Est. Il a souligné que l'achat de terrain pour les besoins de la capitale attend l'annonce officielle de l'emplacement exact de la nouvelle capitale par le président. Le président Joko Widodo a déclaré qu'il faisait encore des études. Il annoncera immédiatement après avoir reçu les résultats complets de ces études. Le Forum indonésien pour l'environnement, qui est la plus grande organisation de mouvement écologique en Indonésie, a également souligné la déclaration de responsable du gouvernement central. Le Forum indonésien pour l'environnement, ou WALHI, doute de l'inquiétude du gouvernement concernant les impacts environnementaux. Le vice-président de la Commission du Parlement, M. Herman Khairon, a demandé au gouvernement de proposer d'abord le concept de déplacer la capitale au Parlement indonésien. Il a affirmé que le Parlement indonésien n'avait reçu aucune notification concernant le projet du gouvernement de déplacer la capitale de Jakarta, bien qu'il soit largement rapporté et qu'il devienne la consommation publique. Sauf lorsque le président Jokowi a officiellement demandé l'autorisation du Parlement vendredi dernier. Selon Herman Khairon, le processus correct est que le gouvernement doit d'abord proposer le concept de déplacer la capitale au Parlement pour être discuté. Le déplacement de la capitale nationale doit être déterminé par la loi. Il reste d'importants problèmes à résoudre pour déplacer véritablement la capitale nationale, y compris la région appropriée. Donc, il n'est pas nécessaire de se précipiter et causer la confusion au public. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 26 août 1920, la journée de l'égalité des femmes américaines. La journée de l'égalité des femmes a été commémorée pour la première fois le 26 août 1920. Cette célébration commémore la première fois que la Constitution des États-Unis a permis à la population d'élire des candidats. Nous célébrons aujourd'hui un tournant dans l'histoire de la lutte des femmes qui luttent pour l'égalité des droits et de traitement aux États-Unis. Avant 1920, il y avait 72 ans de campagne réclamant l'égalité des droits et le traitement des femmes aux États-Unis. Cependant, ce mouvement n'a pas vraiment réagi. Ce mouvement ne s'est finalement pas développé uniquement aux États-Unis. Il a également encouragé les femmes du monde entier à se battre et revendiquer les droits et l'égalité dans la société de leur pays. Le 26 août 1963, Alfredo Di Stéfano, l'agent de football du Real Madrid et du monde, a été la cible d'un enlèvement. L'incident a commencé à Caracas, la capitale du Venezuela. À cette époque-là, Di Stéfano, avec Real Madrid, était en tournée en pré-saison dans les pays d'Amérique latine. Il était la cible de l'enlèvement des forces armées de libération nationale pour renforcer la popularité du groupe, qui menait alors une campagne contre le gouvernement vénézuélien, notoirement corrompu. Le drame de l'enlèvement a duré 56 heures. Di Stéfano a été libéré sans la moindre blessure au corps. Il a été escorté à l'ambassade d'Espagne à Caracas, puis a repris l'entraînement avec son club à Madrid. Le 26 août 1967, la 7e semaine nationale du sport s'est tenue à Surabaya. La 7e semaine nationale du sport a eu lieu à Surabaya, Java Oriental, du 26 août jusqu'au 6 septembre 1969. La 7e semaine nationale du sport a été disputée pour la première fois à l'ère du Nouvel Ordre. En fait, la 7e semaine nationale du sport aura lieu à Banjarmasin, Kalimantan du Sud, à la suite de la réunion du Comité national des sports indonésiens du 26 au 29 février 1968, mais il s'avère que Kalimantan du Sud n'est pas prêt à le tenir. De plus, avec diverses considérations et calculs, lors des négociations entre le Comité national des sports d'Indonésie centrale et la Direction générale des sports, le choix de l'organisateur de la manifestation a finalement été confié à Surabaya. La 7e semaine nationale du sport correspond à 13 sports. Jakarta est devenu le champion de classement général avec l'acquisition de 102 médailles d'or, 69 médailles d'argent et 40 médailles de bronze. Alors que Java Est, en tant que lot, est seulement devenu finaliste. Leurs médailles sont loin et dessous de DKI Jakarta avec 65 médailles d'or et 62 médailles de bronze. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Chers auditeurs, c'était la chanson entre toutes les femmes indonésiennes chantée par Oppie Andaresta. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Et voici donc mon Indonésie. Chers amis de l'antenne, voici donc mon Indonésie. Et pour le titre, le ministère de l'Agriculture garantit la santé et la sécurité des exportations de produits dérivés de palmiers à huile. Le ministère de l'Agriculture, par l'intermédiaire de l'Agence de quarantaine agricole ou Barantan, en tant que facilitateur du commerce et des produits agricoles, garantit la santé et la sécurité des produits agricoles exportés aux pays partenaires commerciaux. Le directeur de Barantan, Ali Jamil, dans un communiqué de presse reçu dimanche à Jakarta, a veillé à ce que le service soit rapide, précis et conforme aux conditions techniques du pays de destination. C'est ce qu'a affirmé Ali Jamil lorsqu'il observait l'industrie des coquilles de palme et libéré 22,8 000 tonnes de produits dérivés du palmier de Sumatra occidental. Produits dérivés de palme, chacun sous forme de raffiné blanchi et désodorisé ou RBD de 4 000 tonnes, CPO de 7,8 000 tonnes vers la Chine, en outre les produits sous la forme d'une coquille jusqu'à 11 000 tonnes vers le Japon. Selon Ali Jamil, le traitement d'inspection de quarantaine est effectué conformément aux normes internationales et aux exigences de chaque pays de destination. Renforcer le système de quarantaine ne consiste pas seulement à préserver les ressources naturelles vivantes, mais également à encourager la performance des exportations agricoles. Barantan a mis en place une certification en ligne ou e-cert pour garantir l'acceptation des produits agricoles dans les pays de destination des exportations. Cette essence de données permet de vérifier les exigences techniques avant l'arrivée du produit. Donc, s'il y a divergence, on peut immédiatement anticiper le traitement de sa quarantaine. Ce service numérique fournit des solutions durables. Il a confirmé qu'actuellement, il n'y a que 4 pays tels que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas et le Vietnam qui coopère. Il a ajouté que le ministère de l'Agriculture avait chargé, si possible, à l'avenir, tous les pays pouvaient collaborer. Pendant ce temps, Eka Darnidayanto, responsable de la quarantaine agricole à Padang, Sumatra occidentale, a déclaré qu'outre les produits dérivés de la palme, le même jour, d'autres produits agricoles de Sumatra occidentale étaient également exportés. L'économie totale atteint 212,8 milliards rupiah qui comprend 604,8 tonnes de caoutchouc, 18 tonnes de café en graines, 95 tonnes de produits dérivés de la cannelle et les produits dérivés de la noix de coco constitués de 83,8 tonnes de lait de noix de coco, de 25 tonnes de noix de coco râpée et de 71,2 tonnes d'eau de coco. Les pays de destination à l'exportation sont les Pays-Bas, l'Espagne, la Norvège, la Chine, le Bangladesh et l'Allemagne. Et qu'a expliqué, les exportations de coquilles de palme, des données du système d'automatisation complète de quarantaine indonésienne ou ICFAS dans la zone de travail augmentent de 28%. En 2018, les exportations totales s'élevaient à 404,8 000 tonnes, tandis qu'à la deuxième semaine d'août 2019, les exportations de coquilles de palmier atteignaient 344,4 000 tonnes. Serge Rita, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Rusakah bila ada rasa menyimpan kekaguman ini padamu? Saat sudah ada dia yang beri senyuman di hari-harimu, bukan salahku cinta hadir tak menentu. Kau ada yang
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Serge Rita, c'était la deuxième chanson intitulée « Jamais tort » de Lalhuta. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Serge Rita, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir chers auditeurs, on se rencontre encore à notre émission Magazine Culturel. Et ce soir avec moi Oudry et je vais vous présenter l'île Selayar en Sulawesi Sud. Restez toujours avec nous à la RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Chers auditeurs, Sulawesi du Sud a non seulement des produits marins abondants, mais aussi un charme naturel que vous pouvez visiter quand vous êtes sur l'île Selayar du sud de Sulawesi. L'île Selayar est une petite île située dans le district de Selayar, dans la province de Sulawesi du Sud. La capitale du district de Selayar est Kota Benteng. Le trajet vers l'île de Selayar dure environ 10 heures depuis Makassar. Chers auditeurs, l'île de Selayar possède des plages de sable blanc très fin comme les plages de Pamatata, de Tanaira, de Langsangireng, de Taloya, de Pabadilang, de Rampang-Rampangan et de Labuan Naipaya. Non seulement de la beauté de la plage, l'île Selayar offre également un magnifique panorama sous-marin dans le parc national de Takabunerate. Sur cette île, il existe un atoll de corail d'une superficie de 220 000 hectares. Il s'agit du plus grand atoll d'Asie du Sud-Est et du troisième au monde. Chers auditeurs, sur l'île Selayar, vous pourrez également découvrir l'unicité du village de Toa Bitombang, qui est le plus ancien village de l'île Selayar. La particularité de ce village réside dans le fait que les maisons ont un toit en bambou avec un support élevé en bois. Les piliers de la maison sont en bois de biti ou holasa, qui est de bonne qualité. C'est pourquoi les maisons de ce village restent robustes malgré leur centenaire. Une autre particularité de ce village réside dans ses habitants, dont la plupart ont plus de 90 ans, mais peuvent encore exercer des activités productives comme l'élevage du bétail et le jardinage. La beauté de la plage, de la mer, des bâtiments, de la culture, des activités communautaires et une variété de particularités naturelles et communautaires font le charme de l'île de Selayar qui est intéressante à voir et à apprécier. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel sur l'île Selayar en sud de Sulawesi. On se rencontre encore demain avec l'autre sujet le plus intéressant. Merci beaucoup et au revoir.
Chers auditeurs, c'était la chanson de Dia intitulée « L'amour de 99%. » Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Pour la rubrique suivante, voici donc « Apprendre l'Indonésien ».
Bonjour, bonsoir à tous. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique « Apprendre l'Indonésien ». Ce soir avec moi, Audrey. Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Le sujet d'aujourd'hui est sedang apa. Ou en langue française, qu'est-ce que tu fais? Ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation ayant pour titre sedang apa. Ou en langue française, qu'est-ce que tu fais? Endah lit un journal dans le salon. Tony est venu et l'a salué.
Kamu sedang apa?
Saya sedang membaca koran.
Après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et le vocabulaire sur le thème d'aujourd'hui. C'est sedang apa? Sedang apa? En français, qu'est-ce que tu fais? Je vais prononcer deux fois et vous pouvez me répéter. Koran. Koran. En français, journal. Berita. Berita. En français, les nouvelles. Kamu sedang apa? Kamu sedang apa? En français, qu'est-ce que tu fais? Saya sedang membaca koran. Saya sedang membaca koran. En français, je lis un journal. Apa yang sedang dia lakukan? Apa yang sedang dia lakukan? En français, que fait-il? Dia sedang membaca berita. Dia sedang membaca berita. En français, il lit les nouvelles. Kamu lagi apa? Kamu lagi apa? En français, que fais-tu? Dans le dialogue, Tony a demandé sedang apa? Sedang apa? En français, qu'est-ce que tu fais? Pour poser des questions sur une activité que quelqu'un fait, vous pouvez dire sedang apa? Sedang apa? En français, qu'est-ce que tu fais? Kamu sedang apa? Kamu sedang apa? En français, qu'est-ce que tu fais? Anda sedang apa? Anda sedang apa? En français, qu'est-ce que vous faites? Mereka sedang apa? Mereka sedang apa? En français, qu'est-ce qu'ils font? Vous pouvez aussi demander apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Qu'est-ce que tu fais? Apa yang sedang dia lakukan? Apa yang sedang dia lakukan? Qu'est-ce qu'il fait? Pour répondre à cette question ou pour informer les autres de l'activité en cours, vous pouvez par exemple dire saya sedang membaca koran. Saya sedang membaca koran. En français, je lis un journal. Dia sedang membaca berita. Dia sedang membaca berita. En français, il dit des nouvelles. Dans les conversations de tous les jours, par exemple avec des amis, certains préfèrent utiliser le mot lagi plutôt que le mot sedang. Par exemple, kamu lagi apa? Kamu lagi apa? En français, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu fais? Cette question est similaire avec kamu sedang apa? Kamu sedang apa? En français, qu'est-ce que tu fais? Mais l'expression lagi apa est seulement utilisée dans les conversations quotidiennes et non dans les forums officiels. Chers auditeurs, avant de terminer apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, pour plus de détails, écoutons l'exemple de la conversation encore une fois.
Kamu sedang apa?
Saya sedang membaca koran.
Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage de la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Kecewa melandamu, ku ingin hilang sebentar saja, tapi ku tak bisa lakukan itu. Aku tertahan rasa sayang. Maafkanlah ku lupa diri. Hanya kamu yang buat aku luluh selamanya begitu. Takkan pernah ada jenuh karena hatimu.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson en titre de Lulu, chantée par Jess. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Bon, chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. On se retrouve avec moi, Tiwi, dans le magazine Musica. Cette édition présente une chanson intitulée Pamit, ou en français, dites au revoir. La chanson intitulée Pamit a été créée par Gesang, un maestro indonésien de croncheong au style de pop. Cette chanson a été popularisée par Bruri Marantika, est ensuite à nouveau chantée par Bruri, dont le genre est croncheong. La chanson intitulée Pamit raconte de quelqu'un qui doit quitter son amant qu'il aime toujours. Il a été forcé de le quitter parce que l'amant avait déjà son nouvel amant. Malgré tout, il espère toujours que l'amant est heureux avec son nouvel amant. Chers auditeurs, écoutons Bruri Marantika chanter la chanson intitulée Pamit. Bonne écoute!
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.